Bonjour chers amis, bonjour chers Sangha. Nous sommes le 13 avril 2013, deuxième journée de la retraite. En fait, on dit que c'est une retraite de fin de semaine de 3 jours, mais il n'y a qu'une seule journée. Et c'est la journée d'aujourd'hui, c'est samedi. Vous êtes levés de bonne humeur, en souriant. N'est-ce pas? C'est pas grave, demain il y en aura une autre. N'attendez pas trop longtemps, il n'en restera plus. Alors donc, ce matin, c'était un plaisir que de pouvoir me réveiller dans cet endroit merveilleux. Ça fait je ne sais pas combien de temps qu'on est venu et revenu à la Villa Saint-Martin. Lily me garde beaucoup et elle me met toujours dans la même chambre, 321. Je ne sais pas de quoi votre fenêtre a l'air, mais ma fenêtre est superbe. Elle donne sur un grand arbre, d'un côté avec un grand conifère et d'un autre côté un vieil arbre, je ne sais pas trop. Et dans cet arbre, chaque fois que je regarde cet arbre, je vois la présence de... On l'appelle Marie. Marie. Alors, je ne sais pas comment, mais le jeu de lumière, la façon dont l'arbre est fait, c'est comme si c'était comme un hôtel et à l'intérieur, on peut voir le fleuve en arrière. C'est vraiment merveilleux. Et chaque fois que je retourne, je regarde le même paysage et tous les souvenirs des prochaines retraites me reviennent. Et je suis vraiment ici, chez moi, chaque fois que je suis dans cette chambre à regarder la rivière. Ce matin, je me suis permis quelque chose que je ne me permets pas d'habitude. D'habitude, pendant que vous êtes en train de faire vos activités, que ce soit les rencontres de famille, les méditations ou les étirements. Je suis dans ma chambre et je pratique le retour et souvent je me pose la question, qu'est-ce que je vais bien leur raconter aujourd'hui? Et c'est comme ça que je passe d'habitude mes journées, pas mes journées, mais les 2-3 heures qui précèdent un enseignement du Dharma. Et aujourd'hui, j'ai dit que je vais peut-être pratiquer ce que je vous demande de faire, c'est-à-dire d'arrêter ce canal. Et c'est ça que j'ai fait ce matin. Et je me suis permis d'être avec vous pour toutes les activités, faire exactement comme vous faisiez. Je me suis même joint à une famille. Et je me suis aperçu que Lily a une très bonne job. Non, c'est pas vrai. L'une des jobs de Lily est bien, mais elle en a trop. mais ça m'a permis d'être en contact avec la famille de Lily ce matin. Je pense que c'était la meilleure façon pour moi de passer les 2 dernières heures. Donc merci à toute la famille de m'avoir... vous ne m'avez pas vraiment accueilli, je me suis imposé, je suis rentré comme... un chien dans un jeu de quilles ou bien cheveux dans la soupe. Mais c'est ça aussi les avantages d'être l'enseignant. Il n'y a personne qui ose vous dire quoi que ce soit. Vous faites ce que vous voulez. Il ne faut pas abuser. Il y a une personne ici qui m'a aidé dans mon travail du retour chez moi. Léon. J'ai commencé cette carrière... pas cette carrière, mais j'ai commencé, ok, cette carrière. Je vous l'ai raconté à plusieurs reprises par une grosse dépression. L'enseignement de Thaï m'est arrivé par beaucoup de voies et de façons. La première chose, c'est que Thaï était notre maître dans la famille. Il a déjà enseigné ma grand-mère. Et c'était tout un retour lorsque j'ai pu retourner au Vietnam. aller dans les pagodes où ma grand-mère pratiquait, aller dans les pagodes où mon grand-père paternel pratiquait, retourner dans les pagodes où que ma mère, que ma grand-mère a contribué à construire. Et le groupe que j'ai eu la chance de guider dans mes recherches au Vietnam ont eu la chance de pouvoir écouter à Saigon, dans la pagode Saloy, le son de la grande cloche. Et le son de la grande cloche à Saigon, c'était la première fois en 50 ans qu'elle a pu ressonner. Parce que le son de la cloche, des cloches au Vietnam, était interdite depuis 50 ans. Et c'est la première fois en 50 ans que cette cloche-là a ressonné. Et dans cette cloche, ce que j'ai raconté à nos amis qui étaient avec nous, il y avait un bracelet que mes grands-parents m'avaient donné lorsque j'étais né. Et ils l'ont mis dans la fonderie lorsque la cloche a été fondue. Alors le son de cette cloche qui résonnait très profondément en moi, dans mon cœur, et mes ancêtres étaient revenus. Et c'est ça le retour que nous avons pu accomplir lors de cette visite à la pagode Saloy. Et dans ma vie aujourd'hui, oui, et dans les derniers mois, c'était un constant retour chez nous. C'était un constant retour à la source. Ce matin encore, notre ami Léon m'a donné une chance de retourner très loin en arrière, au début de ma carrière de pratiquant de méditation. Donc, c'était en 80, je ne m'en souviens plus combien. Cette grande maladie qui m'a touché, la crise dans laquelle j'étais, Thaï est apparue la même fin de semaine où je devais, où je m'étais complètement perdu, ne sachant pas quoi faire. Et pour la première fois de ma vie, j'ai pu entendre quelque chose qui était merveilleux. La vie n'existe que dans l'instant présent. J'ai réalisé, j'avais 32 ans, que j'ai passé 32 ans de ma vie à courir après le futur. Je n'étais jamais dans le moment présent, mais seulement toujours en train de courir après quelque chose. Et aussitôt que ce quelque chose devenait réalité, il y avait d'autres choses pour le remplacer. Et c'est aussi ce qui m'a conduit à ma perte. Et c'est ce aussi qui m'a conduit à ma crise et à ma dépression. Le bonheur, c'est notre quête à tous. Nous voulons tous vivre heureux. Mais questionnons-nous, nous, qu'est-ce le bonheur pour nous? C'est quoi le bonheur pour vous? C'est quoi les conditions que vous y mettez? Faites attention, parce que ce sont ces mêmes conditions qui vous empêchent de pouvoir l'avoir. Le retour chez soi, le NST, c'est exactement cela. Revenir aux sources. Là où tout est possible, là où il n'y a aucune question, là où tout est naturel. Parce que nous sommes déjà tout ce que nous voulons être et que nous avons déjà en nous tout ce dont nous avons besoin pour être parfaitement heureux et content. Mais à cause de notre esprit, à cause de nos pensées, nous nous inventons des objectifs. Nous courons après pour nous apercevoir qu'ils sont illusoires, pour nous apercevoir que tout ce dont nous pensons avoir besoin ne sont que des images et des illusions, des idées qui nous consument, des idées qui nous font travailler jour et nuit. Les idées qui ne nous laissent pas dormir tranquille le soir et qui nous reprennent aussitôt que nous nous réveillons le matin et qui nous gardent emprisonnés constamment. Donc le retour dont je voulais vous partager, C'était cette première illumination. Le passé n'est plus, le futur n'est pas encore là. Il n'y a qu'un seul instant, et c'est l'instant présent. L'instant où la vie existe, et la vie n'existe que dans cet instant. Tout ce qui s'est passé avant est déjà passé. Tout ce qu'on pense qui va arriver va peut-être arriver, mais à force d'y penser, ça va le devenir. Et nous avons cette facilité, cette capacité de nous élaborer les pires scénarios apocalyptiques que nous pouvons. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner. Lorsque tout ce dont on redoute le plus, c'est ce qui nous arrive. Et c'est pour ça qu'on dit que nous sommes en train de créer notre propre enfer par notre façon de penser. L'univers dans une bouchée de pain. Un concept très facile à comprendre. Un concept que je nous invite à pratiquer lorsque nous allons manger ensemble, encore à midi. Lorsque nous lisons les cinq contemplations et que nous disons cette nourriture est le don de l'univers tout entier, du soleil, de la terre, de bien, du travail. C'est exactement cela que Léon a voulu nous partager. Que l'univers se rassemble dans cette simple bouchée de pain. Et si nous pouvons reconnaître la présence divine dans la bouchée de pain, de la même façon que nous pouvons reconnaître la présence divine dans, comment ça s'appelle, l'hostie, y voir la chair et le sang du Seigneur, y voir tout l'amour que l'univers tout entier a contribué pour rendre cette nourriture possible. Nous réjouir de ce cadeau que nous recevons avec cette simple bouchée de pain. C'est une pratique merveilleuse. Et c'est cela la pratique que nous faisons. C'est de faire en sorte que chaque chose que nous faisons prenne leur pleine signification. Et la seule façon de pouvoir toucher à leur vraie valeur, c'est d'être là, c'est d'être présent, corps et esprit ensemble, entièrement. Ce n'est pas en pensant que nous pouvons toucher à ces réalités. C'est sans nous penser, c'est ne rien penser, d'être là en contact pour être en communion. Et c'est cela, la présence. Revenir corps et esprit ensemble, ici et maintenant, être vraiment chez soi pour être en contact et en communion avec tout ce qui est, se fondre et faire partie de cette réalité. Ce n'est plus la personne et la bouchée de pain, c'est un ensemble, c'est l'inter-être. Et c'est cela la vision profonde. Et comment est-ce qu'on y parvient? Par la pratique de l'arrêt. La pratique de l'arrêt que nous permet la respiration consciente. Cette pratique si simple que je répète des millions de fois. Non pas pour vous, mais pour moi-même, à chaque instant. J'inspire, je me calme. J'expire, je souris. Je m'établis dans l'instant présent, instant unique et merveilleux. C'est cela la pratique. Et plus nous la pratiquons, et plus nous pouvons rentrer plus profondément dans l'instant, et nous allons voir que cet instant est sans fin. Hier, j'avais dit, aussitôt que vous pensez l'avoir, faites attention, vous venez de le perdre. C'est exactement ce que Léon m'a dit aussi aujourd'hui. Cette vision qu'il a eue et qu'il a écrite, et qui a été lue par beaucoup de monde et qui a inspiré beaucoup de monde. Le guide ressource des années 80. Ça fait partie de la spiritualité du Québec. Et si vous avez mon âge, vous avez tout été des lecteurs et des lectrices du guide ressources. Et si vous avez été à la maison de pleine conscience, vous savez aussi que qu'elle n'aurait pas été ce qu'elle était sans la présence de Lucie Dumoulin. Nous étions nés ensemble. L'équipe du guide ressources a préparé le terrain, a préparé la population du Québec et nous avons suivi, nous avons servi. ce que le guide ressource a commencé. Et nous sommes encore ici pour continuer cette œuvre. Alors vous êtes avec nous depuis ce temps-là. Nous allons continuer. Je vais continuer. Parce que je sais que les bonnes idées, les illuminations sont aussi des formations qui sont impermanentes. Ce n'est pas pessimiste, c'est très optimiste ce que je suis en train de dire. Parce que ce qu'on pense avoir compris n'est qu'un échelon vers une meilleure compréhension. Et le danger, c'est qu'on pense y avoir, qu'on pense être arrivé, qu'on pense qu'on l'a eu. Et mon maître dit toujours, si tu te contentes du quatrième barre de l'échelle, si tu penses être arrivé au quatrième, jamais tu n'auras la chance de pouvoir découvrir le cinquième. Je ne sais pas combien d'échelons il y a sur cette échelle. Je ne sais pas combien de pas il y a sur ce chemin pour arriver à destination. Et c'est cela qui rend ce chemin tellement intéressant, parce qu'il n'a pas de fin. Et je peux vous dire une chose, chaque pas prépare le prochain, et la joie que nous peut nous procurer ce pas n'est qu'une préparation pour une joie beaucoup plus grande, le pas prochain. Ce que nous pensons pouvoir voir et réaliser avec le quatrième échelon n'est rien comparé à ce qu'on peut voir au huitième, au quinzième ou au cinquantième. Et il y en a qui s'y sont parvenus. Et nous pouvons les voir et ce sont des inspirations. Des personnes inspirantes. Et je peux vous parler, par exemple, je ne vais pas vous parler de mon maître parce que vous allez me dire que je suis biaisé. Je vais vous parler de personnes que vous connaissez très bien. Mère Teresa, c'est quoi sa pratique? C'est juste ça qu'elle fait. Je ne fais rien de grand. Je ne suis pas capable de faire de grandes choses. Je peux faire juste une chose à la fois, m'occuper de la personne qui est en face de moi. Et je veux faire en sorte que chaque personne que j'ai la chance de rencontrer puisse me quitter un peu plus heureuse qu'elle était avant de me rencontrer. C'est tout ce qu'elle fait. Mais parce qu'elle est animée d'un amour inconditionnel, d'un si grand amour, toutes les personnes qui ont la chance de la toucher ressentent l'effet qu'elle veut. Et qu'est-ce qui fait que ces miracles se réalisent? C'est son amour. Un amour qui fait qu'il n'y a plus d'ego. Lorsqu'elle est avec quelqu'un, elle ne dit pas « Je suis la mère Teresa, puis toi tu es la petite fourmi que je vais sauver. » Elle se fond avec cette personne et c'est cette communion qui fait qu'il y a ce transfert d'énergie et d'amour. Alors regardons-nous. Lorsque nous sommes avec quelqu'un, lorsque nous sommes dans un groupe, lorsque nous sommes en relation, c'est toujours moi et l'autre. Et la pratique de la bouchée de pain, c'est cette pratique qui nous permet de pouvoir voir que nous sommes, que nous faisons partie du tout. Et que cette illusion de croire que nous sommes séparés des autres et que nous sommes celui qui donnons ou bien celui qui recevons, cette notion, ce concept du soi, de cet ego, c'est cela aussi qui est la source de nos fausses perceptions. Et c'est cela l'une des grandes causes de toutes nos misères. C'est de se voir, de se croire séparé de tout ce qui est. J'ai lu avec beaucoup de compassion toutes les que vous m'avez écrit. Je dois vous avouer que je me reconnais dans la plupart de ces témoignages ou de ces partages. Non seulement que je me reconnais, mais en les lisant, ça devient mien aussi. Et je pense qu'il y a un dénominateur commun à toutes ces choses. C'est notre personnalité. C'est notre ego. c'est toujours je suis comme ci parce que l'autre est comme ça. Ou bien je fais ceci, ou bien je suis comme ci parce que. Et lorsqu'il y a ce mot je, lorsqu'il y a ce mot moi, lorsqu'il y a l'autre, il y a elle, il y a il, c'est qu'on est à côté de cette réalité que nous voulons pratiquer, la réalité de l'inter-être, de l'interdépendance. Alors la pratique que nous faisons, j'inspire, je me calme, j'expire, je souris, nous permet de pouvoir revenir à l'instant. Revenir à l'instant pour pouvoir reconnaître les conditions dans lesquelles nous sommes. Reconnaître que le bonheur est possible, que le bonheur est là, qu'il est accessible, de voir comment, par notre façon de vivre, par nos fausses perceptions, par nos conceptions erronées, nous nous en éloignons, ou bien nous les rendons inaccessibles. Ce matin, Lily a choisi un excellent texte de lecture, Un nouveau départ. Et je l'ai écouté avec attention. Et je me suis dit, quel merveilleux enseignement. Et si vous ne l'avez, vous ne vous en souvenez pas, il existe aussi sur notre site web que vous pouvez consulter puis relire. C'est un texte que les monastiques pratiquent une fois par semaine. Dans notre pratique, nous avons un livre qui s'appelle Les lectures du lundi matin, du lundi après-midi, du lundi soir, mardi, mercredi, jeudi. Monique en a une copie. Et c'est un bon rappel sur comment faire et quoi faire. Et ça commence par je reconnais mes fautes. Là, ça ressemble beaucoup à la pratique chrétienne. Et c'est pour ça que là, je suis en train d'hésiter et si je dois poursuivre parce que je ne me sens pas l'âme d'un prêtre pour pouvoir continuer. À parler de renouveau et de repentir. Et pour moi, c'est très simple et c'est très facile. Mais je sais aussi que à cause de la façon dont le repentir a pu être enseigné dans cette culture, ce n'est pas peut-être pas la meilleure, le meilleur sujet que je peux aborder ici. Alors donc, on a dans une retraite où j'en ai plein de conscience parlé de pardon, de repentir et puis tout ça. Puis la façon dont je l'approche, je le vois, est très différente. Et je vais essayer de le faire maintenant. Pour vous. Cette pratique consiste à la pratique de l'arrêt. Nous faisons un bilan de notre situation. Et c'est ce qu'on a essayé de reproduire en vous demandant de faire le questionnaire pré-retraite. Mais régulièrement dans notre vie de pratiquant, c'est toujours bon de s'arrêter. En fait, la pratique, c'est de s'arrêter, mais des fois, c'est bon de s'arrêter en s'arrêtant pour faire le point. Et donc, c'est faire le bilan. Aujourd'hui, je m'appelle encore Mintran. Et j'ai un jour ou deux jours de plus qu'hier ou avant-hier, et je suis rendu à tel âge. Très important de s'en souvenir. De notre anniversaire, faire le décompte des jours qui sont passés pour réaliser qu'il nous en reste un peu moins en avant. Et ça c'est la pratique que nous faisons les soirs lorsque nous récitons le gatha de l'impermanence. Ce jour vient de passer. Il y en a un de moins à vivre. Yes, tant mieux. Non, c'est pas ça. Non, des fois, la vie est tellement malheureuse qu'on a hâte que les jours passent. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je fais de ma journée? Une journée de moins à vivre. faire le bilan de la vie, de ma vie, de ma journée, ça peut aider à décider de ce qu'on se donne comme aspiration ou comme décision pour poursuivre. Et lorsqu'on fait ce genre de bilan, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de bons coups qu'on a fait. Et on dit « Yes, parfait, j'ai été... » Et ça s'appelle le journal des gratitudes. Je suis très content, je suis très heureux de ma journée parce que j'ai pu faire ci, j'ai pu faire ça. J'ai reçu telle chose, j'ai reçu. Et en être reconnaissant. Et c'est une pratique merveilleuse parce que vous voyez, la même chose qui nous a procuré du plaisir, lorsqu'on les, qu'on s'en remémore ou bien qu'on y repense, le plaisir revient. Une chose, deux fois le plaisir. Merveilleux. Alors c'est comment multiplier, décupler les plaisirs et les gratitudes ou les grâces que nous recevons. Donc le journal des gratitudes. Mais avec les gratitudes, avec ces belles choses, il y a aussi des choses qui sont que nous souhaitons ne pas avoir fait. J'ai levé mon doigt lorsque cet imbécile m'a coupé. Bon ben, je suis pas très fier de ce que j'ai fait. Par contre, ben, je l'ai fait parce que sans m'en rendre trop coupable, reconnaître qu'il y a eu des choses qui me sont arrivées et regarder d'où elles viennent, d'où elles proviennent. Je sais que je ne veux pas lever mon petit doigt, non, pas mon petit doigt, le doigt du milieu. Mais il m'arrive de le faire. Pourquoi est-ce que je le fais? C'est quoi la raison? C'est quoi cet excès de rage? C'est quoi cette colère? Pourquoi c'est là? Alors toutes ces choses-là, ce n'est pas pour nous taper dessus, mais ce sont des signes qui nous indiquent ce que nous contenons à l'intérieur de nous, ce que nous sommes devenus et ce que nous voulons ne plus être ou ne pas être. Alors nous pratiquons les gratitudes pour pouvoir renforcer les points positifs que nous avons. Et nous pratiquons aussi avec les gratitudes, la reconnaissance des formations mentales néfastes. Parce qu'il faut les reconnaître pour pouvoir les transformer. Nous ne pouvons pas les ignorer. Nous ne pouvons pas les réprimer. Les réprimer ne fait qu'encourager, les encourager à devenir plus violentes lorsqu'elles vont se manifester. Et notre pratique, c'est de pouvoir les reconnaître sans jugement, sans les classifier, mais seulement reconnaître qu'elles sont là, les embrasser, les reconnaître qu'elles sont une partie de nous, même si c'est ce que nous n'aimons pas, même si ce que nous ne voulons pas, ça fait partie de nous et c'est nous aussi. Et mon maître a l'image de la mère qui embrasse tendrement son enfant. Alors nous avons en nous des graines de bonté, d'amour et d'espoir que nous voulons arroser et favoriser. Nous avons aussi à l'intérieur de nous des graines de viol et d'oppression et de peur et de jalousie etc. qui sont aussi en nous et que nous devons reconnaître, identifier pour pouvoir transformer. Alors donc, le nouveau départ commence par cette identification. Commence par l'identification de ce que nous avons en nous, de ce qui est positif et de ce qui l'est moins, et de la pratique qui est de retourner avec nos maîtres, avec l'enseignement, prendre refuge pour pouvoir entamer, faire le travail de transformation. Alors ça va avec le, c'est pas trop mal comme renouveau. Donc ce n'est pas la flagellation, ce n'est pas la punition, ce n'est pas l'enfer, c'est juste la reconnaissance et l'embrassage avec amour. Reconnaître qu'il se fait partie de nous et que nous voulons et que nous pouvons et que nous avons le pouvoir de transformer. Ce matin aussi dans, en famille, j'ai beaucoup aimé la conclusion que Lily a faite avant qu'on se quitte. Elle nous a rappelé les quatre nobles vérités. Et c'est très important qu'on se rappelle cet enseignement. C'est le premier enseignement et le dernier enseignement et le seul enseignement du Bouddha. Les quatre nobles vérités. La souffrance existe. Et il y a des causes à la souffrance. Et si nous voulons appliquer cet enseignement, il nous faut souffrir. Il nous faut souffrir, reconnaître la souffrance et la comprendre. Et la seule façon de pouvoir comprendre la souffrance, c'est de souffrir. Comment peut-on comprendre la souffrance si nous ne souffrons pas? Alors bienvenue, puis merci souffrance. Parce que c'est cela la voie de la libération. Les vrais pratiquants, les pratiquants accomplis, vous le diront. Il y en a un qui, que je vais citer sans lui dire son nom. Je ne voudrais pas vivre dans un monde sans souffrance. Parce que s'il n'y a pas de souffrance, comment pourrait-il y avoir de la compassion et de l'amour? Je ne voudrais pas vivre dans un monde sans amour. Et donc, je ne voudrais pas vivre dans un monde sans souffrance. Vous savez, c'est qui? C'est mon maître qui le connaît, qui l'a rencontré, qui l'a vu. Si vous n'avez pas encore eu la chance de le rencontrer, de le voir, je vous conseille de le faire. Il est un peu partout dans le monde et il enseigne constamment. Il n'y a pas une journée où il n'est pas en train d'enseigner quelque part. Pendant qu'on se parle ici, il est à l'autre bout du monde et il est en train d'être en Thaïlande et en Corée et en Chine. Et il incarne les quatre nobles vérités. Et il incarne la présence. Il incarne I'm really home. N'importe où. À chaque pas, il est là. Présent. Il n'y a aucun de ces enseignements écrit, enregistré, en vidéo direct ou que j'essaie de répéter ici. Il n'y a rien qui peut se comparer à un contact direct avec cette personne. Il sera à Toronto au mois d'août, en Amérique jusqu'au mois d'octobre. Il y a au moins quatre grandes retraites qui vont se donner dans ce, sur ce continent. Essayez de vous y inscrire. Et bonne chance, parce qu'aux dernières nouvelles, il y a juste seulement là, je sais. La seule place où il y a encore de la place, c'est Magnolia Grove, Mississippi. Mais allez-y vite, parce que ça se remplit aussi très vite. Ben, c'est ça, ou bien aller au Vietnam avec moi en novembre. On va se reparler de calendrier. Je ne suis pas ici en novembre. De quoi on parlait? Cet homme a énormément souffert dans sa vie. Je ne sais pas, ben, je sais. Je sais les souffrances que nous portons. J'en sais un peu parce que vous m'avez écrit. J'en sais un peu parce que je, pour les souffrances que je vis moi-même. Et les souffrances que nous vivons, les souffrances que je vis, je n'ose pas le dire. Mais quelqu'un dans le groupe ce matin a relativisé la souffrance. Et a dit, je travaille avec des personnes qui sont amputées. Et qui souffre énormément, et cette souffrance me touche. C'est une personne qui a beaucoup d'amour et de cœur. Elle voit la souffrance des autres, elle ressent la souffrance des autres et elle l'en fait sienne. Et elle en souffre. Elle nous a dit, lorsqu'on voit et qu'on reconnaît la souffrance d'une jeune personne qui perd ses jambes par amputation et qu'on s'accroche après une perte de 10 dollars et qu'on en fait un plat. C'est un peu comme ça que mon maître a vécu sa propre souffrance. Ma souffrance était reliée à mon emploi, un emploi. La souffrance de mon maître est la souffrance d'un peuple de 70 millions de personnes. La souffrance de mon maître est reliée à ce bateau de réfugiés de la mer. 90 personnes perdues dans l'océan, sans ravitaillement, sans eau, sans nourriture, qu'aucun pays ne voulait admettre, ne pouvait accepter. La souffrance de mon maître est reliée à ce village qui a été incendié et qui a été bombardé. 240 personnes, un village complet détruit, parce que les Américains voulaient conserver le village en l'incendiant et en le bombardant. Un village complet détruit. C'est cela la souffrance de mon maître. Lorsque nous avons visité les pagodes du Vietnam, il y a un monument qui s'appelle le monument au Bodhisattva de Quang Duc à Saigon. Il est tout récent, ça fait seulement 3 ans qu'il est là. Mais c'est en commémoration du moine de Quang Duc qui s'est immolé par le feu en 1963. Parce que vous avez mon âge, vous avez vu ces images partout, dans tous les journaux, dans ces années-là. Et c'est cela la souffrance de ces personnes, de ces êtres, de ces grands êtres, dans l'enfer de feu qu'était le Vietnam. Et toutes ces souffrances-là ont eu comme résultat l'enseignement que nous sommes en train d'avoir. Le lotus qui s'est manifesté dans l'océan de feu qu'était le Vietnam des années 60. Et c'est cela les 4 nobles vérités. Parce que la souffrance existe, et c'est à partir de la souffrance que le bonheur peut être. Cet héritage que nous avons reçu, cet héritage dont nous sommes en train de profiter, provient de cette grande souffrance. Pas de boue, pas de lotus. Un lotus s'épanouit dans l'océan de feu. Les 4 nobles vérités manifestées dans le monde du 21e siècle. Alors lorsque je pense à toutes ces souffrances, comme notre ami de ce matin parle de la souffrance de ses patients amputés, je compare ses souffrances aux miennes et je me dis, de quoi tu souffres? C'est quoi ton problème? Alors regarder la souffrance, pouvoir l'identifier, la comprendre, la relativiser, peut être pour nous une voie pour nous en sortir. Regardez l'exemple de nos maîtres pour voir comment ils s'en sont sortis et comment ils nous enseignent à partir de leur propre expérience. Et l'enseignement de mon maître, l'enseignement qu'il nous transmet et qui provient de sa propre pratique pour pouvoir sortir de sa souffrance, est le même enseignement qui a été donné au Vietnam depuis le tout début du bouddhisme au Vietnam, avec le maître Thanh Hoi au 3e siècle. Revenir à l'instant, ici, maintenant. C'est seulement dans l'instant que la vie existe. C'est seulement dans l'instant que tout peut se faire et tout est possible. J'inspire, je me calme. J'expire, je souris. Je retourne un peu dans l'histoire. Aussi pour me rappeler que ce que nous vivons n'est pas nouveau. La souffrance existe, elle a toujours existé et continuera d'exister. Il y a 2600 ans, quelqu'un s'est dit pourquoi on souffre et a essayé de trouver comment s'en sortir. Il s'appelait le Bouddha. Il y a 3000 ans. Dans 3000 ans, d'autres personnes vont encore se poser la même question. Pourquoi nous souffrons? Pourquoi la souffrance existe? Nous aussi, nous nous posons la même question. La réponse a été donnée il y a 3000 ans. La réponse continue de se donner à chaque instant. Et première parole du Bouddha après son illumination. C'est tellement simple. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne comprennent pas? Et pourquoi est-ce qu'ils se mettent à retourner vie après vie dans ce cycle infernal de la naissance et de la mort? C'est simple. Tout est là, tout a été dit. Tout a été expliqué. C'est clair. Et pourtant, et qu'est-ce qu'il y a dans cette réalité? Si simple, l'univers dans une bouchée de pain, l'impermanence. La bouchée de pain n'était pas ce qu'elle était, n'était pas cette bouchée de pain il y a quelques jours avant. C'était quelque chose, beaucoup de choses qui s'est ramassée comme ça et puis qui va se transformer et puis qui va disparaître. Ou bien qu'on pense qu'il va disparaître, mais qui va continuer son cycle de transformation. Et c'est cette réalité-là, l'impermanence, l'interpénétration, l'interdépendance, l'inter-être. Et si nous pouvons voir cette chose-là et la voir dans chaque chose, dans chaque événement, dans tout ce que nous pouvons concevoir, comprendre, imaginer, penser, appliquer cette leçon, le voir avec les yeux de l'interdépendance, et tout ça, et c'est cela l'illumination. La souffrance n'est qu'une manifestation, n'est qu'une formation. Tout comme le bonheur. Et comme toute formation, ça dépend de conditions. Et parce que ça dépend de conditions, ça ne peut pas durer. Et c'est en continuelle transformation. Notre souffrance d'aujourd'hui va se transformer. Elle peut se transformer en plus de souffrance. Et c'est cela que nous avons fait. Mais il y a aussi une autre façon de la transformer. C'est de la transformer en compassion et en amour. Et c'est cela, tous les enseignements du Bouddha, tous les enseignements des grands maîtres, c'est de nous indiquer des façons et des moyens de pouvoir atteindre cette réalité, défaire cette notion, ces fausses perceptions que sont notre ego. Alors lorsque nous apprenons le sutra du diamant, notre programme d'études de cette année, nous avons identifié les notions et les concepts qui nous gardent prisonniers. C'est quoi ces quatre concepts que le sutra du diamant nous demande de faire éclater? La notion d'être, le soi, la notion de personne, la notion de durée de vie. Il y en avait quatre. Mais en tout cas, le sutra du diamant n'en identifie que trois ou quatre. Mais c'est parce que les enseignants, les maîtres veulent nous faire pratiquer avec ces trois ou quatre. Mais c'est la même réalité et la même pratique que nous devons faire pour pouvoir identifier non pas seulement ces quatre concepts, mais tout ce que nous croyons, tous les concepts, toutes les formations, et les regarder avec les yeux de l'impermanence et de l'inter-être. Alors aujourd'hui, pour poursuivre avec notre étude, nous devions parler des six paramitas. Et les six paramita, c'est le chemin ou la voie pour parvenir à l'autre rive, c'est ça. Et cet enseignement en identifie six. D'habitude, et ce matin, j'ai coupé ça. Nous lisons, nous chantons le cœur de la Prajna Paramita. Mais parce qu'il y avait un peu trop de nouveau, je ne voulais pas vous inquiéter, vous offenser. Alors j'ai demandé à Lily de vous en faire grâce, mais c'est seulement partie remise parce que demain vous allez l'entendre. Et c'est une pratique, c'est un chant, c'est un enseignement que je récite à chaque matin. Le cœur de la Prajna Paramita, très court, 3 minutes, mais qui résume un enseignement des plus profonds, l'inter-être. Le tout, tout est vide. Alors demain, lorsque vous allez le chanter avec nous, vous allez pouvoir peut-être toucher à cette réalité du vide. Et c'est l'un des chemins pour nous permettre de pouvoir atteindre la rive de la libération. Donc c'est le Prajna Paramita, c'est-à-dire la voie de la compréhension, de l'intelligence, de la vision. Une vision qui nous permet de pouvoir transcender toute souffrance. Est-ce que vous le lisez à Rimouski? Faites-le chaque matin. C'est l'un de nos sutras de base. Alors, dans notre pratique, nous avons quelques textes que nous lisons ou que nous récitons quotidiennement. Le premier, c'est nous faisons toujours l'ouverture. Le dharma est profond et merveilleux. Nous avons la chance de pouvoir le rencontrer, de le réciter, de le pratiquer. Sans souvenir que c'est un grand cadeau, c'est une bénédiction, c'est une grâce, c'est un grand privilège d'avoir eu la chance de rencontrer le dharma. Et c'est ce que le sutra, la lecture de ce matin nous rappelle. Combien de mondes sont en train de vaquer, de voguer, d'être pris dans leur tourment et dans leur souffrance sans même le reconnaître, encore moins reconnaître la voie pour s'en sortir. Nous avons eu la chance de pouvoir nous arrêter, d'identifier, de reconnaître que nous sommes en train de souffrir et aussi de pouvoir entendre une façon de pouvoir nous en sortir. Et c'est beaucoup plus que gagner la loto. Il y a peu de gens, peu de monde dans cette vie qui peuvent se dire qu'ils ont eu la chance de reconnaître qu'ils sont en train de souffrir, et encore moins de dire je pense que j'ai une idée de ce que la voie, de la voie qui peut me permettre de m'en sortir. Très tôt dans ma vie, dans ma carrière d'étudiant en bouddhisme, j'ai lu quelque part quelqu'un dire que la chance que nous avons de rencontrer le dharma est comparable à celle d'une tortue dans la mer. Une tortue qui peut passer 1000 ans en bas de l'eau et une fois chaque 1000 ans sortir de l'eau juste pour prendre une bouchée d'air puis retourner dans le fond. Et dans cet océan, il y a un donut qui flotte. La chance que la tortue en sortant à chaque mélan de l'eau pour pouvoir prendre sa bouchée d'air, de rentrer dans le donut qui flotte sur l'océan. C'est à peu près la même chance que nous avons eu pour avoir rencontré le Dharma. En tout cas, ce sont ce genre d'histoires qui m'ont que j'ai beaucoup aimé et qui m'ont permis de pouvoir apprendre le bouddhisme. Donc, tu n'étais pas la seule personne que je lisais, Léon, mais je lisais aussi ces histoires-là que j'aime beaucoup. Mais pourquoi tu ris? Quand j'ai lu ça, je me dis, yes, je suis parmi ces personnes chanceuses. Et en tout cas, je suis bien content de me retrouver parmi les personnes chanceuses, ou de le croire. En tout cas, n'importe quoi pour se motiver, n'est-ce pas? Donc, le matin, nous lisons l'ouverture, les gathas d'ouverture. Nous lisons le Prajnaparamita. Et nous lisons le refuge. Et nous finissons toujours avec le gatha de clôture. Alors ce matin, c'est ça que j'aurais voulu vous rappeler. Mais dans notre pratique, parce que nous sommes dans la tradition Mahayana, nous ne pratiquons pas pour nous-mêmes, nous pratiquons pour tous les êtres. Et c'est toujours bon de se le rappeler. Et c'est une pratique qui nous permet aussi de pouvoir nous aider à nous sortir de notre ego. Alors lorsque nous pratiquons pour tous les êtres, la motivation est beaucoup plus grande que lorsque nous pratiquons pour nous-mêmes. C'est une façon aussi de nous revoir et de nous voir dans tous les êtres. Et aussi un rappel pour ne pas oublier que nous sommes effectivement parmi tous les êtres et non pas des êtres séparés. Lorsque Lily a écrit son article, dans quelle revue vous avez écrit? Ou bien quel livre? Mais Lily m'a demandé une question. Est-ce qu'on est Theravada ou Mahayana? Je ne me souviens pas exactement de la réponse que je lui ai donnée. Mais je pense lui avoir dit « on est Mahayana ». C'est ça que j'ai répondu. Ah, ok. Est-ce qu'il faut souffrir? Ben, ça, c'est une autre question, en tout cas. Alors donc, la réponse qui est Mahayana, c'est aussi le résumé de notre enseignement. Mahayana, parce que notre pratique, c'est la pratique du bonheur et de la joie. Alors, haha ou hihi, ça dépend comment vous riez. Mais notre pratique, c'est la pratique de la joie. Alors ce n'est ni Mahayana ni Theravada, c'est Mahayana. Parce que s'il n'y a pas de joie, ce n'est pas notre pratique. Et l'enseignement le plus profond et le plus universel, c'est... Je suis chez moi, je suis arrivé. Ici et maintenant, dans la joie et le bonheur. Et c'est cela le Dharmatrak le plus profond, le plus court, mais aussi le plus réel. Donc, il y a hier, les nouveaux amis dans la petite chapelle ont eu la chance d'entendre Lily leur parler de nos pratiques de base. Et ce matin, j'ai entendu le mot de base basic ou de basic base. Ne sous-estimez pas les enseignements les plus simples. Ne lâchez jamais la base. Parce que c'est seulement à partir de la base que tout peut se construire. Lâchez la base, vous perdez tout. Et tout va s'écrouler. Croyez-moi. Le Bouddha n'a jamais arrêté de pratiquer après son illumination. Tout le temps où il enseignait, il a continué de pratiquer le retour et la présence. Mon maître n'arrête jamais de pratiquer la respiration consciente et le retour chez soi. Mon maître n'a jamais quitté sa sangha. Il est toujours avec sa sangha parce qu'il sait que c'est sa protection. Ne lâchez pas la base. Ne sous-estimez pas les enseignements simples. Restez avec la base et vous serez en sécurité. Donc, j'inspire, je me calme, j'expire, je souris. Instant présent, instant unique et merveilleux. Il y a aucune il y a beaucoup de différences entre l'instant présent de mon maître et mon instant présent. Et votre instant présent actuel n'est rien comparé à ce qu'il peut être avec votre pratique assidue et constante. Et si vous le faites, vous en apercevrez au bout de 24 heures. Même pas au bout de 24 heures, au bout de 7 heures, vous pourrez voir une différence entre votre respiration maintenant et celle qu'elle peut être dans 6 heures d'ici avec votre pratique. Ou bien 6 respirations, ou bien 6 minutes. Observez la qualité de votre respiration et vous verrez. Vous verrez où ça peut vous mener. J'inspire, je me calme. J'expire, je souris. Le sourire change, le calme change. L'instant change. Et il est de plus en plus merveilleux. Il en est de même pour les pas de pleine conscience. Nous ne pouvons pas pratiquer dans l'enseignement de cette tradition. Nous ne pouvons pas nous dire que nous pratiquons selon l'enseignement de Tsingan si nous ne savons pas comment marcher. Les pas que vous avez faits de la porte jusqu'à votre coussin, étiez-vous là? Ou étiez-vous en train de penser? Et c'est un check qu'on peut se faire constamment. Chaque pas, chaque respiration est une occasion de pratique. Et c'est la seule pratique que nous avons besoin de faire. Revenir chez nous, ici, maintenant. Cet enseignement est un enseignement direct du Bouddha. L'Anapanasati Sutra était un enseignement qui était donné par le Bouddha lui-même. Un enseignement original, que le Bouddha a donné à tous ses monastiques du temps. J'inspire, je me calme, j'expire, je souris. C'est cet enseignement qui a été délivré il y a 2600 ans. Mais nous le pratiquons selon la tradition de Tang Hoi. Et Tang Hoi a dit dans son ouverture, comment les bodhisattvas font pour pouvoir sortir de la condition? Alors, en utilisant le mot bodhisattva, il a ramené cette pratique à une pratique Mahayana. Que faire pour grandir? Je ne sais pas. Je ne veux plus grandir, je veux retourner en enfance, vous n'avez pas compris. Alors donc, le Mahayana, c'est cette tradition vietnamienne merveilleuse qui a su combiner, utiliser les textes originels du bouddhisme, mais en les enseignant dans la vision, dans l'approche Mahayana, pour pouvoir sauver tous les êtres. Et c'est ça qui est la caractéristique qui différencie le bouddhisme vietnamien, le bouddhisme zen vietnamien de toutes les autres traditions. Alors vous aurez des traditions Theravada, vous aurez des traditions Mahayana, vous aurez des traditions tantriques, mais la tradition zen vietnamienne embrasse toutes ces traditions. Et c'est l'unification. Alors lorsque nous parlons d'église bouddhique unifiée, c'est cela que ça veut dire. Rien de neuf, rien de nouveau. J'inspire, je me calme, j'expire, je souris. Que faire pour grandir? Get over it. C'est la réponse qui m'est venue pendant la réunion de la famille que j'ai pu assister ce matin. Très simple. Alors on aura un nouveau terme. G-O-I. N-S-T, puis G-O-I. G-O-I, get over it. Comprenez-vous? Get over it. Quoi que ce soit, quoi que ce soit qui vous tracasse, qui vous chicote, qui vous emmerde, get over it. Je ne sais pas si il y a quelqu'un qui est bon en anglais ici. Est-ce que get over it, ça a de la sens, du sens, ou bien get over with it, ou bien c'est quoi? Comment je devrais le dire? Je ne sais pas. Notre thème de méditation pour le restant de la retraite. Get over it. Et c'est le choix que je vous propose. Vous êtes venu avec quelque chose. Vous êtes venu avec un bagage. Vous êtes venu avec des cailloux, des roches, je ne sais pas trop quoi. Vous avez le choix de repartir avec, de les garder, ou de get over it. Et la façon de le faire, c'est très simple. Thay utilise le mot throw it away. Il a utilisé le mot release, lâche-le. Mais dernièrement, il utilise un mot plus fort, throw it away. Pitch-le, d'une façon ou d'une autre. C'est mon souhait pour vous de pouvoir soit le lancer, soit vous en débarrasser, soit le lâcher, soit whatever. Get over it. Et la seule façon de pouvoir le faire, à mon avis, c'est de revenir et de s'ancrer dans l'instant présent. Et toutes les pratiques que nous faisons n'ont que ce seul objectif de vous permettre de pouvoir revenir. À chaque respiration, à chaque bouchée, à chaque pas, à chaque action, à chaque instant, instant après instant. Chaque instant, dans la joie. Là, il nous reste encore 20 minutes avant la photo. Très important, la photo, vous savez. Parce que j'ai des fois, dans mon travail de retour chez moi, je regarde mes photos. Et dernièrement, mes enfants m'ont sorti une photo sur Facebook de moi en 1973. J'étais beau garçon dans le temps. Alors c'est très important les photos pour pouvoir conserver les traces d'une jeunesse passée. Alors, si vous avez des questions pour les prochaines 15 minutes, on pourrait prendre ça. Mais je peux vous dire une chose. Ce GOI, ce n'est pas mon invention, mais c'est quelque chose qui s'est manifesté à partir de ce groupe, avec ma rencontre de ce matin. Et ça va être mon thème de méditation et ma pratique. Et ça commence déjà à le faire. Et juste à y penser, juste à penser à ce mot, me procure un sentiment de légèreté. Et notre illumination, notre objectif de pratique, c'est de parvenir à cet état de liberté et de légèreté. Alors dans les chansons que nous chantons, il y a les termes solides, etc. Et puis il y a un terme qui est très très important, liberté. Et c'est ça que ça évoque en moi, légèreté, liberté. Et c'est tellement simple. La raison aussi pourquoi je vous suggère d'y penser avec ces mots NST puis GOI, c'est parce que dans notre tradition, nous pratiquons aussi selon le maître Linchi, la lignée Rinzai. Et dans la lignée Rinzai, il y a une pratique qui s'appelle la pratique des koans. Et ça fait partie aussi de nos pratiques de vision profonde, les koans. Alors, get over it peut être votre koan de pratique. En parlant de koan, Ça vous dit quelque chose, les koans de la lignée Rinzai? C'est quoi le bruit d'une main? Ou bien le vent, le bruit du vent, puis toutes ces choses-là. Ça, j'ai adoré ces choses-là aussi en début de carrière, parce que les koans, ce sont ces formules, ou bien ce sont ces questions sans réponse que les grands maîtres zen du temps donnaient à leurs étudiants pour leur permettre de pouvoir se réaliser. Ça prend une très très bonne compréhension tant de la part du maître que de l'élève pour pouvoir choisir un koan qui soit adapté à l'élève. Et dans le temps, les maîtres avaient juste un ou deux ou trois élèves avec qui ils vivaient, donc ils pouvaient faire ce genre de pratique. Mais maintenant, les maîtres ont des milliers et des millions d'élèves, alors ce n'est plus possible de pratiquer avec ce genre de... comme les bâtons, puis les cris, puis les engueulades, ça ne passe plus parce qu'on se fait actionner de harcèlement et de violence. Mais Thaï continue d'enseigner avec des koans. Et pendant mon voyage au Vietnam, j'ai découvert que Thaï pratiquait les koans et que Thaï enseignait avec les koans, mais que ses élèves n'étaient pas en mesure de pouvoir le reconnaître. Et je me suis exercé à le faire avec le groupe et je me suis aperçu qu'ils ont été très loin de comprendre que c'était notre pratique, une pratique de koan adaptée. Est-ce qu'il vous en a posé? Thaï. Monique, chaque parole de mon maître sont des koans et des enseignements. Souvenez-vous-en. Vous avez eu la chance de le rencontrer en personne et de lui parler en personne. Et mon maître sait que lorsqu'il rencontre une personne, c'est la seule chance qu'il a de pouvoir le libérer. Et lorsqu'il dit une parole, ce n'est pas une parole, c'est un enseignement. Un enseignement qui a la force d'un koan de libération. Un exemple de koan. Qu'es-tu en train de faire? Ou bien bonne chance. Prendre ces paroles pour des paroles mondaines, c'est complètement sous-estimer mon maître. C'est ne pas comprendre que nous sommes dans la lignée de Rinzai et de Linji, où chaque parole compte, où chaque parole est un coup de pour l'éveil. Cette pratique est profonde et merveilleuse. Alors voilà, je vous ai un peu partagé mes découvertes du Vietnam. Et chose bizarre, toutes les choses qui étaient là et que j'ai découvert en marchant. Et c'est pour ça que je vais y retourner. Et je ne veux pas attendre trop longtemps. Tout ça, c'était pour vous laisser le temps de préparer vos questions. Oui. Oui. Question très intéressante et très importante. Je ne pense pas avoir de réponse. Je pourrais vous répondre, mais je ne sais pas si ça peut aider. Je sais que dans mon métier, je sais que dans le monde dans lequel nous vivons, nous avons été entraînés à régler des problèmes et à dénouer les choses. Selon le bouddhisme, c'est très très simple. Je vous ai parlé de formation mentale. Ce qui est ce qui se manifeste aujourd'hui est le résultat de tout ce qui s'est passé avant. Le résultat de beaucoup de conditions. Et notre pratique consiste à pouvoir le regarder, l'observer, comprendre ce qui a contribué à amener la situation présente. Et selon l'enseignement de la... C'est quoi cet enseignement de Shariputra? Tout ce qui est dépend de ce qui l'a alimenté. Identifier ce qui est, identifier les sources d'alimentation qui l'ont nourri et qui ont fait qu'elle se manifeste aujourd'hui, et de couper leur alimentation. Et c'est tout ce qu'on a besoin de faire. Et demain, j'aurai la chance de parler de... Non, pas demain, tout de suite. Je vous ai parlé des 6 paramitas. Les 6 paramitas qui sont ces 6 voies qui nous permettent de pouvoir parvenir vers la rive de la non-souffrance. Et l'une de ces voies s'appelle la pratique des entraînements à la pleine conscience. Si vous regardez, si nous regardons nos souffrances, nous pourrons voir que la plupart ou la majorité ou la totalité, dépendamment de notre capacité d'analyse et de visionnement, de reconnaître que tout ce qui nous arrive et que nous considérerons comme des souffrances est dû à notre façon de vivre. Par la façon dont nous avons mené notre vie, nous nous sommes construits notre univers et nous nous sommes mis dans le pétrin ou dans les plats dans lesquels nous sommes. Alors ça, c'est quelque chose aussi qui est très difficile à admettre. C'est toujours la faute des autres, n'est-ce pas? Mais nous, on n'y est pour rien. Alors cette pratique, c'est de revenir pour voir qu'est-ce qui a contribué, comment nous, par notre façon de vivre, nous y avons contribué. Et à la lecture des 5 entraînements à la pleine conscience, nous pourrons voir que tout se ramène dans les 5 entraînements à la pleine conscience. Et que si nous avons pu pratiquer les 5 entraînements à la pleine conscience dans notre vie, cette situation ne serait pas arrivée. Et nous pourrons aussi voir que c'est par la pratique des 5 entraînements à la pleine conscience que nous pourrons nous en sortir. Alors, en réponse à votre question, comment faire pour déprogrammer? Je n'aime pas le mot déprogrammer. Je préfère le mot comment vivre pour pouvoir get over it. Et comment vivre pour get over it, c'est revenir à l'instant, pratiquer les 5 entraînements à la pleine conscience. Alors cet après-midi, vous aurez la chance de pouvoir écouter des témoignages sur la pratique des 5 entraînements, mais ils sont sur la table et vous pourrez déjà les consulter, les lire, et les refléter, ou vous refléter, ou refléter la situation qui vous tracasse présentement avec la lecture des 5 entraînements, pour voir comment votre vie, ou bien comment les 5 entraînements auraient pu vous aider à les léviter. D'accord? Très bonne question, merci. Good. Get over it, but don't lose the lesson. Get over it, don't lose the lesson. Parce que you get over it and then you fall back into it again. Ok, je pense qu'il n'y a plus de questions, tout est clair. J'entends la même chose. Vous dites la même chose. Je pense qu'on est prêt pour la photo.